ravi de vous retrouver pour parler sport sur VOA Africa. Ce soir, nous allons faire le point du tirage au sort de la nouvelle saison des interclubs de la CAF. Puis, on reviendra sur le sac de l'Espagne à l'Euro et de l'Argentine en Copa América. Et pour décortiquer tout ceci, vous le savez, je serai avec mes consultants. Le doyen Jules Valentin Ngwe nous a rejoint depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous.
Amine Birouk est lui à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous.
À Porte Nouveau au Bénin, nous avons Lawal Dine Kosuro. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Et puis dans l'Ohio, précisément à Columbus, à Medine Si est en direct. Bonsoir Medine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Allez, Sporama, c'est parti. L'Espagne est allée décrocher son quatrième titre d'Europe en battant l'Angleterre 2-1 en finale. Amine, la Roja entre dans l'histoire. Un record, tout simplement.
Un record, oui. 4 victoires à l'Euro, 64, 2008, 2012 et désormais 2024. C'est justement par un flashback que je voudrais commencer cette analyse concernant cette finale de l'Euro. On se souvient du huitième de finale Espagne-Maroc de la Coupe du Monde, ou de la faillite du tiki-taka transformé en tiki-nada, d'un entraîneur et d'un concept de jeu un peu bling-bling avec Luis Enrique. L'Espagne a choisi la voie du bon sens, elle a rappelé le Del Bosque du service, en tout cas le gardien du temple au niveau de la direction technique nationale, à savoir Luis de la Fuente, quelqu'un de très humble, qui a constitué une équipe à son image, versatile, sobre à la fois et séduisante. Une équipe qui a joué sur la verticalité, qui a tout misé sur la vitesse de ses deux faux-follets, Lamine Yamal sur le côté droit et Nico Williams à gauche. Ce sont également deux joueurs du vouloir vivre ensemble espagnol, puisqu'ils sont tous deux d'origine étrangère, ghanéenne pour Williams et marocaine équato-guinéenne pour Lamine Yamal. Marocain, le papa, et de la Guinée équatoriale, la maman. Et puis, le concept de jeu est resté le même, avec des variations, puisque cette équipe espagnole n'a pas fait de la possession un dogme. Elle a plutôt misé sur ses temps forts, sur sa capacité à accélérer le jeu, à subir quand il le fallait. Et aujourd'hui, sur la finale, on a vu une équipe d'Espagne attentiste en première mi-temps, mais plus entreprenante en seconde. C'est elle qui a pris les initiatives, c'est elle qui s'est créé le plus d'occasions, c'est elle qui a mérité de gagner. Ce qui est dommage, c'est que l'Angleterre, avec le potentiel que possède l'effectif entraîné par Gareth Southgate, que ce dernier ne puisse pas tirer le maximum la quintessence de ses joueurs. On a vu lors de cette finale un Harry Kane complètement perdu, idem pour Phil Foden, c'était un peu à l'image de son euro, et un Bellingham à 5% de sculé, elle a retrouvé ses vieux démons. L'Angleterre qui n'a plus rien gagné depuis 1966 et qui devra patienter au moins 4 ans à domicile, à home, avant de postuler un euro qu'elle co-organisera avec l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'Espagne est un beau champion d'Europe lors d'une compétition un peu terne. L'équipe la plus audacieuse, la plus séduisante a mérité d'aller au bout et aujourd'hui, elle trône au-dessus du palmarès du championnat d'Europe des Nations.
Jules, l'Espagne était favorite sur papier et l'a prouvé une fois de plus aux dépens des True Lions.
Élisée, l'enjeu de cette finale était clair pour les deux protagonistes encore en vie. Côté anglais, il s'agissait d'être enfin sacré champion d'Europe en faisant oublier au passage la désillusion de la dernière finale perdue à domicile face à l'Italie, alors que côté espagnol, l'occasion de dépasser les Allemands au nombre de trophées gagnés se présentait. Or, que ce soit par leur parcours que par la manière, les Espagnols partaient effectivement favoris sur le papier et pour cause. Malgré une moitié de tableau plus compliquée, avec d'autres ténors ou anciens champions comme l'Italie, la Croatie, l'Allemagne et la France, l'Espagne a gagné tous ses matchs avec en prime une démonstration de sa capacité technique individuelle et collective, ainsi que sa faculté à agir ou réagir, là où l'Angleterre est restée peu convaincante avant les demi-finales, ce qui lui conférait un simple statut d'outsider pendant cette finale. L'opposition de style attendue va tourner en faveur des Ibériques, très à l'aise dans l'entrejeu et percutant dans les couloirs à l'image des deux buts de Nico Williams et de Mikel Oyarzabal, bien servis respectivement par Lamine Yamal et Marc Cucurella en deuxième période, après que le remplaçant anglais Cole Palmer ait fait illusion en égalisant à la 73e minute. Mais en fin de compte, avec la victoire de l'Espagne, c'est un jeune et beau champion que l'Europe s'est logiquement choisi hier soir.
Merci Jules, que de déception pour l'Angleterre. Ahmedine Sy, depuis sa victoire à la Coupe du Monde de 1966, les Anglais ne parviennent toujours pas à étoffer le palmarès.
Ah oui, Élisée, on dirait qu'il y a une malédiction hein, qui suit l'Angleterre, qui n'arrive toujours pas hein, à étoffer son palmarès. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, car l'Angleterre, comme vous le savez, vient de disputer et perdre hein, sa deuxième finale consécutive. Comme vous le savez, Élisée, les Anglais avaient perdu le dernier acte de l'Euro 2020. C'était à domicile. Ils avaient perdu face à l'Italie en finale après la série de tirs au but. Ce dimanche, encore, les hommes de Southgate ont disputé et perdu la première finale disputée hors de leur place face à une excellente équipe espagnole, je dirais même la meilleure équipe de cette compétition. Mais on retiendra quand même, Élisée, le caractère de cette équipe de l'Angleterre, je dirais même la résilience, car les Anglais ont prouvé dans cette compétition qu'ils avaient vraiment du caractère en revenant au score à 4 reprises, mais face à l'Espagne, face à cette excellente équipe espagnole, cela n'a pas suffi, malgré un excellent but, le but égalisateur de Palmer, mais une nouvelle fois, les Anglais vont rentrer bredouille après cette compétition. Élisée.
Malgré son effort d'équilibrer les débats, la résilience anglaise n'aura pas suffi.
Elle n'aura pas suffi, Élisée, parce que les Anglais, après plusieurs décennies de disette, ils pensaient pouvoir faire les choses en grand. Ils ont perdu. Il y a quelques années en arrière, ils perdent encore. Aujourd'hui, on a bien l'impression que l'enjeu a dépassé le jeu et ils étaient complètement en dehors du jeu. Et dans le fond, l'équipe espagnole avait une certaine suprématie sur le jeu, possession de balles, c'était espagnol. Et quand on voit un peu l'Espagne face à l'Allemagne, face à la France, on se dit que cette équipe a du répondant. Elle a bien démontré en finale face à l'Angleterre.
Avec ce quatrième titre, la troisième lors des cinq dernières éditions, l'Espagne passe donc devant l'Allemagne qui est restée à trois couronnes depuis 1966. Et comme l'Espagne, l'Argentine aussi a réalisé la passe de trois après avoir remporté la Copa América. L'Albi Céleste s'impose en finale à Miami 1-0 devant la Colombie au bout des prolongations. Alors, Ahmedine, vous avez suivi cette rencontre peu animée, mais riche en enseignements.
Tout à fait, Élisée, c'est une victoire acquise dans la douleur, hein, au bout du suspense, grâce à un but de Lautaro Martinez, but marqué à la 112e minute de la prolongation. Avec cette victoire, Élisée, l'Argentine conserve non seulement son titre acquis en 2021, mais l'Argentine de Messi sortie sur blessure à la 65e minute rentre aussi dans l'histoire en devenant la première nation du continent américain, la deuxième au monde à remporter trois tournois majeurs d'affilée, car après la Copa América en 2021 et le Mondial en 2022, l'Argentine vient une nouvelle fois de remporter la Copa. Il faut dire que l'Argentine a égalé aussi le record de l'Espagne. L'Espagne qui avait remporté trois tournois majeur d'affilée, c'était la Coupe du Monde en 2010 et les deux euros en 2008 et 2012. Mais Messi et ses poulets Élisée ont également battu un autre record, car désormais l'Argentine est l'équipe la
plus titrée avec ses 16 trophées car elle dépasse l'Uruguay qui était à égalité avec l'Argentine. Chapeau à ces Argentins, Élisée.
Chapeau à vous aussi à Medine. Ainsi, après la CAN qui s'est déroulée en janvier-février dernier, l'Euro et la Copa qui ont eu lieu en juin-juillet ont animé cette année 2024. Trois compétitions continentales qui s'organisent rarement la même saison. Alors, je me dirige vers vous, Amine. Selon vous, quel est le meilleur tournoi et pourquoi?
C'est vrai que c'est rare de voir les trois compétitions majeures sur le plan continental au niveau des sélections nationales se dérouler la même année. Le loisir est facile. La tentation est facile de vouloir comparer les pour et les contre de chacune de ces compétitions. Ce qui est certain, c'est qu'en termes d'organisation, de rigueur, de logistique, de niveau footballistique, l'Euro est largement dessus. Les Européens ont compris depuis très longtemps qu'il fallait structurer leur compétition à l'arrivée d'intervalles réguliers et n'est pas volatile. Les télévisions sur le plan commercial sont là, les sponsors aussi. Elle est véritablement aujourd'hui un des nerfs de la guerre de l'UEFA, au même niveau que la Champions League qui sera revue et corrigé à partir de la saison prochaine. La Copa América a la particularité de se dérouler de manière aussi volatile que la CAN, des fois tous les deux ans, des fois tous les 3 ans, des fois tous les 4 ans. Et puis, à défaut de pays organisateurs souvent, on se rabat sur le modèle américain, sur les États-Unis. Et évidemment, il y a les inconvénients, du manque d'engouement des Américains pour le soccer, sauf les minorités qui sont là pour remplir les stades. Il y a moins de facilité en termes de déplacement qu'en Europe. Et puis il y a la CAN, notre chère bonne vieille CAN, qui doit arriver à un modèle plus structuré, plus régulier. Je rappelle que depuis la CAN 2017, il n'y a eu que des retards, de choix de pays par défaut, des désistements. On ne peut pas continuer sur ce modèle. Et puis en termes de niveau de jeu, je pense que la CAN a peut-être un petit avantage sur les autres compétitions parce qu'elle s'est déroulée en cours de saison. Même si elle a eu lieu, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans un climat chaud et humide, on a eu des matchs de très très bon niveau. Alors que l'Euro et la Copa América sont un peu la compétition des joueurs fatigués. Et il y a eu quelques matchs au sommet, certes, mais il n'y a pas de quoi s'envoler au plafond. Ce qui est certain, c'est que chaque tournoi, chaque compétition a sa particularité. Mention bien pour les Européens, à revoir pour les Latino-Américains et puis à revoir complètement pour nous, Africains.
Jules, je vous adresse la même question si vous deviez analyser les trois compétitions continentales.
Élisée, avant de répondre à cette question, il faut partir de quelques constats. Tout d'abord, celui que la coïncidence de calendrier n'est parfaite qu'en ce qui concerne l'Euro et la Copa América, qui ont eu la chance de se tenir simultanément en saison estivale, c'est-à-dire à une période de vacances de championnat et de disponibilité du public, sans les contraintes liées à la libération des joueurs, que ce soit pour la préparation ou le déroulement des compétitions, ce qui a été loin d'être le cas pour la CAN ivoirienne de janvier-février, où le degré d'engagement des superstars a laissé pensif, tout comme la pression indirecte ou directe des clubs employeurs était palpable. Tout ceci n'a pas aidé à bousculer la hiérarchie des trois compétitions, même si les niveaux se sont rapprochés. L'Euro reste en tête par la qualité des acteurs et de la préparation. Le nivellement des équipes par le haut maintient un suspense permanent, mais à quelques exceptions près, le jeu est plus académique que spectaculaire. La Copa América, en impliquant tout le continent, a gagné en intérêt, et quoique l'âme sud continue à mener la danse, la CONCACAF est tiré vers le haut, les tribunes sont pleines, vivantes et colorées, tandis qu'un parfum de créativité artistique flotte toujours sur la pelouse de jeu. Quant à la CAN, malgré les contraintes imposées, elle demeure le rendez-vous le plus festif, le plus envoûtant, et sa progression footballistique est la plus fulgurante. Sa programmation permanente entre juin et août, même s'il faut imposer des stades couverts à l'occasion, permettre de pérenniser cette ère de fête planétaire atomisée de football, à l'exemple de la fête de la musique qu'Européens et Américains ont involontairement esquissée cet été.
Il faut le rappeler. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN qu'elle a organisée, puis l'Espagne, l'Euro en Allemagne et l'Argentine, la Copa aux États-Unis. On parle à présent du football des clubs et c'est le début de la saison en Afrique avec le tirage au sort du tour préliminaire des interclubs de la CAF. Les 5 meilleurs clubs en Ligue des Champions sont exemptés de ce premier tour, tout comme 12 clubs en Coupe de la CAF. Amine Birouk, 3 clubs marocains sur 4 sont concernés par ce premier tour. En C1, le Raja joue la garde nationale du Niger et l'Asfa Remo Star du Nigeria. Puis en Coupe CAF, l'UTS face au Racing Club d'Abidjan.
A priori, ce sont des tirages largement abordables pour les équipes marocaines. Le Raja, visiblement, part en pole position avec la GNN du Niger, d'autant plus que le club nigérien ne pourra pas recevoir à domicile, ses terrains n'étant pas homologués par la CAF. Il se pourrait même que les deux confrontations aient lieu au Maroc. Le Raja a gardé son staff technique, en tout cas son entraîneur, celui qui lui a permis de remporter 2 titres cette saison, le championnat et la Coupe du Trône de l'année précédente, Joseph Zimbauer. Visiblement, les piliers de l'équipe ne vont pas changer. On parle en particulier de l'Algérien Bouzouk qui devrait rester, qui a fini meilleur joueur étranger du championnat, ainsi que les principaux éléments expérimentés de l'équipe. Du côté de l'ASFAR, l'heure est au changement d'entraîneur avec l'arrivée du sélectionneur de la Pologne lors de la dernière Coupe du Monde. Et l'équipe de Remo Stars du Nigeria ne devrait pas constituer un obstacle majeur, même si les joueurs de l'ASFAR devront rapidement s'adapter aux méthodes de leur nouvel entraîneur. Et puis, en Coupe de la CAF, il y a la découverte, l'Union de Touarga, qui est un club formateur, qui travaille bien en synergie avec l'Académie Mohamed VI de football, qui est là pour relancer aussi la carrière de certains joueurs revanchards. Premier baptême de feu en compétition continentale face au Racing Club d'Abidjan. Je pense que les deux équipes partent à égalité de chance, avec a priori un léger avantage pour le club marocain qui pourra se prévaloir du niveau actuel de la Botola, qui reste un des championnats majeurs sur le continent africain. Mais en tout cas, ce sera une belle découverte pour ce sympathique club de la ville de Rabat, le troisième de la capitale administrative du royaume, et qui en sera à sa découverte, à ses premiers pas dans l'aventure africaine.
Voilà, et concernant les deux représentants béninois, Dadje FC d'Aplaoué joue El Kameni Warriors du Nigeria et le triple champion en titre Coton FC de Ouida va affronter les Burkinabés de l'AS Douane. Lawal, de gros adversaires pour les deux clubs béninois.
Oui, de gros adversaires, et beaucoup plus côté Burkinabé, parce que l'AS Douane, c'est une équipe qu'on connaît assez bien. Donc, les cotonculteurs ont du souci à se faire pour cette première manche. Donc, ils ont intérêt à mieux se préparer. Et quand on voit que l'effectif est en train de se décimer, on a bien peur pour eux, mais ils vont forcément trouver les solutions pour régler leurs problèmes. Maintenant, quand on parle d'un effectif décimé, celui qui a maintenu l'équipe, le club en vie pendant la saison, a, semble-t-il, signé pour Aksek Mimosa, Romaric Amoussou. Il est sur le départ et d'autres également vont forcément le suivre. Donc, on verra bien comment le coach va réussir à faire l'alchimie pour résister à l'assaut des douaniers. Et côté Dadje, il faut avouer que c'est une équipe qu'ils ne connaissent pas assez eux-mêmes. Mais comme le coach, on a entendu, il a montré que c'est une équipe enthousiaste qui est en train de faire quelque chose d'assez important et forcément qu'ils vont montrer du beau. Mais quand on regarde un peu la qualité du championnat béninois aussi, on a forcément quelques appréhensions. Mais on leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage pour que pour une fois après les AE, qu'un club béninois puisse aller autour de cadrage et puisse jouer les matchs de poule.
On écoute Patrick Agbeinou, l'entraîneur de la DFC d'Aplaoué, qui s'est prononcé sur son tirage.
Nous sommes tombés sur une équipe enthousiasmante qui a déjà fait 2 fois l'expérience de cette compétition. Nous chercherons à la connaître.